Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi 24 octobre commence avec le récit d'un épouvantable périple.
Le voile se lève sur le drame vécu par 39 personnes retrouvées mortes dans un camion en Angleterre. On sait désormais qu'elles étaient originaires de Chine. Et la zone où les corps ont été retrouvés était un lieu connu de débarquement des migrants. L'enquête prend une dimension mondiale avec la coopération des polices chinoises, belges et bulgares. Des litres et des litres d'eau dans le sud de la France pour des intempéries dont le dernier bilan fait état d'un décès, celui d'une sexagénaire dans l'Hérault. Des hydrocarbures dans le lait en poudre des bébés. Foodwatch demande à Nestlé et Danone de réagir. Et comment font les mouches pour atterrir au plafond? Un cours de pilotage à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, en Argentine ce soir où l'on vote dimanche et qui verra sans doute le retour des péronistes. Nous irons voir de près ce pays englué dans une crise économique terrassante et on ne peut pas ne pas aller chez les voisins non plus qui protestent simultanément en ce moment. Le bruit du monde est en Syrie avec des journalistes exfiltrés pour leur sécurité. Et puis 19h20, le téléphone sonne, c'est le retour des morts vivants ce soir. Johnny sort un album demain, c'est son deuxième album posthume. Sagan a écrit un livre, on est capable d'organiser des tournées de chanteurs morts en hologramme. Il y a eu Jackson, il y a eu La Callas, Amy Winehouse à venir même. Est-ce qu'on a raison de réveiller les morts? Est-ce que c'est toujours une question de business? Parfois, après tout, c'est réussi. Regardez Bachung, on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il venait de Chine.
Les 39 passagers clandestins d'un camion frigorifique ont désormais une nationalité. 8 femmes et 31 hommes chinois retrouvés morts hier dans le véhicule garé dans une zone industrielle à Grays, à une trentaine de kilomètres de Londres. L'enquête est en cours pour savoir qui étaient les victimes, pourquoi elles se trouvaient dans ce conteneur et de quoi elles sont mortes. En tout cas, au Tsoufi, les habitants vous ont confirmé que dans cette zone industrielle, on a l'habitude de voir des migrants sortir des poids lourds. Une enquête internationale s'est ouverte. Reportage.
La police a toujours pour priorité numéro 1 d'identifier ces 31 hommes et 8 femmes, tous chinois. Les corps vont être autopsiés pour déterminer la cause du décès de chacun. Dans les lieux de culte de Grays, des veillées sont organisées en mémoire des victimes.
C'est tragique, vraiment terrible, oui. C'est tellement triste. Ils recherchaient évidemment une meilleure vie.
C'est horrible, difficile à croire quand ça se passe là où vous travaillez tous les jours.
Les enquêteurs cherchent à comprendre comment ces personnes se sont retrouvées dans un camion frigorifique immatriculé en Bulgarie et arrivées de Belgique sur le territoire britannique dans la nuit de mardi à mercredi. Le chauffeur a récupéré la remorque au port de Purfleet moins d'une heure avant sa découverte dans la zone industrielle de Waterglade à Grays. L'homme de 25 ans a été arrêté hier et cet après-midi, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. 3 adresses ont été perquisitionnées en Irlande du Nord, d'où il est originaire. L'enquête ouverte par la police de l'Essex hier est la plus grande affaire de meurtre de son histoire. Elle dépasse désormais les frontières puisque les autorités chinoises, belges et bulgares y sont associées. Des réseaux de crimes organisés pourraient être impliqués. L'Agence nationale contre le crime travaille donc aussi sur le dossier. À Londres, Otsoufi, France Inter.
La Chine a envoyé sur place des agents de son ambassade pour vérifier les informations sur l'origine des victimes. En tout cas, il y a 19 ans, en 2000, un drame similaire se déroulait dans le port de Douvres. On retrouvait dans un camion les corps de 58 clandestins chinois morts asphyxiés. La Chine, où les autorités persécutent aujourd'hui la minorité musulmane ouïghour. Le prix Sakharov vient justement d'être décerné à l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti. Le Parlement européen, à l'origine de cette distinction pour les droits de l'homme, a demandé sa libération immédiate. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. L'Europe envoie donc un signal clair à Pékin avec ce prix. Johanna Hochstein.
En 2014, après un procès de 2 jours qui a suscité une levée de boucliers à l'étranger, Ilham Tohti est condamné à la prison à vie pour séparatisme. Le Parlement européen demande aujourd'hui sa libération immédiate. Les eurodéputés saluent ce midi une figure de modération et de réconciliation entre les Ouïghours et le peuple Han. Ilham Tohti, économiste, écrivain et professeur ouïghour qui lutte pour les droits de la minorité musulmane, persécuté dans l'ouest de la Chine, actuellement plus d'un million de Ouïghours sont détenus dans des camps d'internement dans la région du Xinjiang. Les autorités de Pékin les considérant comme des séparatistes. Ilham Tohti, qui a été soutenu par la droite et le groupe Renew au Parlement européen, les socialistes, les verts, les communistes défendaient eux la candidature d'activistes brésiliens. Le prix Sakharov qui sera remis au Parlement européen le 18 décembre prochain. À Strasbourg, Johanna Hochstein, France Inter.
Victime en France des intempéries, les orages ont tué une une personne dans le sud, selon nos dernières informations.
C'est une dame âgée de 68 ans dans l'Hérault. Elle avait été emportée par les eaux à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier, retrouvée dans les vignes à Cazoux-d'Hérault. Elle aurait paniqué et quitté sa maison alors que les consignes des secours lui demandaient de rester chez elle. Les pompiers, en tout, sont intervenus près de 1800 fois dans les 8 départements touchés par cet épisode cévenol. À Port-Iragne, la commune patauge encore dans l'eau et la boue. Heureusement, la solidarité joue à plein, comme le dit la maire Gwendoline Chaudoir.
Nous, on a encore de l'eau parce qu'en fait, l'eau est montée pendant la nuit, puisqu'on est l'ancien delta de l'Orbe. Nous, une fois que tout est évacué, tout vient chez nous. Donc là, en ce moment, on a la Port-Iragne plage qui est complètement coupée du reste du monde. On fait passer les gens avec tractopelle, avec les services de la gendarmerie qui nous ont gentiment mis à disposition des militaires et puis aussi un camion tout-terrain pour faire passer les vivres. Et donc, on est encore dans la phase d'action. L'eau ne s'est pas retirée partout. Ça va prendre du temps. Voilà, on espère que là, à la suite de ça, on n'aura pas trop de mauvaises surprises.
La maire de Port-Iragne, Gwendoline Chaudoir, au micro de France Bleu Hérault. Le climat en France, les efforts ne sont pas suffisants apparemment. Le ministère de la Transition écologique publie son évaluation. Peut mieux faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. S'il diminue, on est quand même loin de l'objectif fixé pour la fin du siècle. Les températures augmentent, les phénomènes extrêmes aussi, comme on vient de le voir dans le sud. À propos de la protection des écosystèmes, la situation est préoccupante. 18% des espèces sont éteintes ou menacées d'extinction en France. Et l'on compte 48 000 décès prématurés par an à cause des particules fines. L'association Foodwatch, de son côté, sonne l'alarme sur les laits en poudre pour bébés. Elle a trouvé, lors de tests en laboratoire, des huiles minérales, des dérivés d'hydrocarbures dans ces produits vendus par Nestlé ou Danone, des substances potentiellement très dangereuses, cancérogènes ou perturbateurs endocriniens. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Foodwatch réclame aux deux groupes agroalimentaires de les faire disparaître définitivement.
Ah oui, 3 laboratoires différents, des laboratoires certifiés, 8 produits testés, trouvés dans des rayons de supermarché. Et voilà donc ces 2 laits infantiles, un de chez Danone et un de chez Nestlé, qui présentent des traces de contamination par ces fameuses huiles dérivées du pétrole. Karine Jacquemart est la directrice générale de Foodwatch France.
L'idée, c'est absolument pas que les gens paniquent. Il n'y a pas un danger aigu, immédiat pour les tout-petits. Néanmoins, soyons très sérieux, il y a un consensus scientifique sur le fait que ces substances sont potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. C'est largement assez pour se dire que la santé publique doit primer et qu'il faut interdire ces substances dans l'alimentation.
Ce sont les emballages qui sont à l'origine de ces contaminations. Foodwatch l'a déjà dénoncé lors d'une précédente enquête il y a 4 ans. Rien n'a été fait depuis. Alors aujourd'hui, il lance une pétition. C'est Camille Doriot qui s'en occupe.
Le but, c'est de mobiliser le plus de personnes possible à travers toute l'Europe. Le but, c'est que ça monte. Tous les soirs, il y a un mail qui est envoyé à Nestlé et à Danone pour leur rappeler le nombre de signataires qu'il y a, le nombre de personnes qui signent et pour leur demander 2 choses. 1, le rappel des produits immédiats et 2, un engagement public sur 0 contamination par les huiles minérales aromatiques.
Dans leur communiqué, Danone affirme que ses propres contrôles ne mettent en évidence aucune trace de ces huiles et Nestlé rappelle que sont les conformes à toutes les réglementations, mais annonce vouloir travailler avec Foodwatch.
Manuel Ruffez, merci à vous.
À 18h08 sur France Inter, Amélie, le nouveau choix du président Macron aura-t-il plus de succès sur la scène européenne?
Le choix de Thierry Breton pour occuper le poste de commissaire européen promis à la France. Aujourd'hui PDG d'Atos, le groupe informatique, passionné de technologie. Il a dirigé dans le passé Bull et France Télé. Il est également ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac. Le sexagénaire semble donc taillé pour le portefeuille attribué à Paris, le marché intérieur, de larges attributions qui vont de la politique industrielle au marché numérique en passant par l'industrie de la défense et de l'espace. Mais n'y a-t-il pas des risques de conflits d'intérêts, surtout que l'entreprise Atos qu'il dirige a des liens économiques avec les institutions européennes? Écoutez les réponses d'Emmanuel Macron, le président actuellement en visite sur l'île de la Réunion.
Si vous commencez à dire on ne peut plus donner des responsabilités publiques à quelqu'un qui accepte de réduire fortement sa rémunération pour passer de la direction d'une entreprise cotée qui a très bien réussi à un poste de commissaire européen. S'il suffit d'avoir une plainte contre vous pour ne plus avoir accès à ces emplois, plus personne n'aura accès à ces emplois. Vous aussi. Demain, je peux porter plainte contre vous. Non, mais je peux porter plainte. Si la plainte est le critère, je peux porter plainte contre vous. Je trouverai. On est en train de tout confondre dans notre pays. Personne n'est protégé. Les dirigeants sont beaucoup moins protégés aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et surtout, ils sont même moins de droits dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer que les autres citoyens. On passe d'un monde qui a pu exister, qui a existé dans la vie politique, économique, où les plus puissants étaient protégés, à un monde où on voudrait en quelque sorte que tous les dirigeants politiques aient un destin, c'est être voués à l'opprobre. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir raison garder, pas commencer à salir les gens dans tous les sens, à partir du moment où ils lèvent la tête, et considérer que vous avez là quelqu'un qui a les compétences et l'expérience requises pour que la France le propose pour être commissaire français.
Le président Macron sur l'île de la Réunion, des propos recueillis par notre envoyé spécial Cyril Graziani. En Europe encore, on l'apprend à l'instant, Boris Johnson, le premier ministre britannique, appelle à des élections générales anticipées. Ce sera le 12 décembre, on y reviendra dans nos prochaines éditions. L'Espagne ne veut plus de mausolée monumentale pour Franco. Le dictateur a été exhumé à la mi-journée et réenterré près de Madrid, dans un lieu plus discret, aux côtés de son épouse. 44 ans après sa mort, c'était en 1975, il a été accompagné par des admirateurs encore nombreux en Espagne. Environ 200 nostalgiques ont chanté l'hymne fasciste de son parti, la Falange, et fait le salut fasciste. C'était une décision du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez après des années d'atermoiement sur le sort de la dépouille de Franco. Carton rouge et 6 semaines de suspension pour le rugbyman Sébastien Vaamaina, sanctionné pour son coup de coude en quart de finale du mondial de rugby face au Pays de Galles. Vaamaina pourra rejouer avec son club Clermont au mieux le 21 décembre, face à Toulon, une sanction raisonnable pour le président de l'ASM, Éric de Cromière.
Je pense que c'est une sanction qui est relativement juste. Le geste en lui-même est évidemment criant, mérite totalement le carton rouge. En plus, il est fait devant quelques dizaines de millions de téléspectateurs. Bon, ceci dit, je crois qu'il a été pris en compte la carrière sans tâche de Sébastien, son côté de joueur extrêmement loyal, reconnu par l'ensemble de ses camarades d'équipe, qu'elle ce soit l'équipe de France, l'équipe de l'ASM et aussi par les adversaires. Donc ça me paraît faire, donc ça veut dire pour moi c'est un juste milieu.
Et le deuxième ligne a en revanche annoncé sa retraite internationale au lendemain de son malheureux geste en bleu. Terminons Fabienne par une question, vous qui, comme les chats que vous adorez, retombez toujours sur vos pattes. Question à propos des mouches, comment font-elles pour se poser au plafond?
Oui, je fais beaucoup moins souvent.
Question. Elles atterrissent toujours en fait sur leurs pattes, mais à l'envers. Une équipe de chercheurs américano-indiennes s'est penchée dessus ou dessous, hein, ça dépend où on se place. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Dites-nous comment font les mouches.
Elles sont capables de coordonner leur vitesse, l'orientation de leur corps et la distance par rapport à l'objectif fastoche. Une série de mouvements qui ont été décortiqués grâce à des caméras haute vitesse et qui établissent ceci. Les mouches accélèrent d'abord en phase ascendante à 140 battements d'ailes par seconde. Elles pivotent très vite en 1/20 de seconde. Elles tendent les pattes, elles balancent le corps et hop, elles se scotchent au plafond grâce à l'adhérence des coussins de leurs pieds. Les pattes sont munies d'amortisseurs aussi, parce que c'est bien fait. Moment crucial pour un atterrissage à l'envers réussi, parce qu'il y en a qui ratent, je vous ai vu Amélie. Le moment crucial, c'est la pirouette, le tonneau. Le pilotage de ces bestioles est à ce moment-là de haute volée en 4 à 8 battements d'ailes. Alors si des chercheurs s'intéressent à cet exploit, l'un des plus intrigants du monde animal, ça n'est pas juste pour cultiver les auditeurs de France Inter évidemment, c'est pour affiner le pilage des drones. Poser les engins dans n'importe quelle position constituerait évidemment une grande avancée technique.
Et vous vous faites toujours mouche, merci Béatrice Duguay. L'événement culturel du jour, c'est l'ouverture au public de l'exposition sur Léonard de Vinci au Louvre à Paris. 162 œuvres et 4 mois pour les découvrir. Les planches anatomiques, la belle ferronnière, la Sainte-Anne et l'homme de Vitruve. Mais j'entends cette mouche pour seulement 2 mois pour le protéger au mieux. Je vous rappelle que notre podcast Poursuite vous emmène dans les coulisses de cette expo hors norme. Et puisque l'on parle de poursuite, le numéro de la semaine vient d'être mis en ligne. Bruno Duvic a demandé aux envoyés spéciaux de la chaîne comment ils travaillaient sur le conflit en Syrie. C'est à écouter en podcast sur France Inter ou sur n'importe quelle plateforme de podcast.
Allez.
Faites sortir ces mouches.
Oui, vous reviendrez dans la position que vous voudrez tout à l'heure. En tout cas, ce sera dans un jour dans le monde. Nous serons en Argentine ce soir qui vote ce week-end. Mais comment ne pas aller aussi chez nos voisins qui sont en pleine secousse en ce moment. Le bruit du monde avec un journaliste, tiens précisément, qui est un journaliste syrien qui a été exfiltré comme d'autres. Et puis le téléphone sonne. Laissez-moi vous le remettre en tête puisque le standard est ouvert. On ressuscite les chanteurs morts ce soir, mais aussi les auteurs, les musiciens. Johnny sort un album demain, un de plus, encore un posthume évidemment. Sagan a sorti un livre le mois dernier. On a vu l'hologramme de Maria Callas l'an dernier à Playel, on a vu celui de Michael Jackson aussi. C'est fou comme on aime réveiller les morts en fait. Il doit y avoir une question de business évidemment là derrière, mais pas uniquement parce que c'est pas tous les jours raté en fait. Allez, 01 45 24 7000, réveillons les nuages aussi tant qu'on y est, Elodie Kovac.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Callac, on attend encore des averses en Corse cette nuit.
Oui, ça s'est bien calmé cet après-midi, mais c'est vrai que cette nuit et ce soir d'ailleurs, on attend encore des averses parfois orageuses. Alors elles persisteront demain matin sur le sud de l'île et puis après ça s'améliorera. Il faudra composer avec la grisaille sur la plupart des régions demain, assez fréquentes, surtout sur le nord-ouest où quelques gouttes ne seront pas exclues. On aura aussi du vent et puis le soleil sera déjà bien installé le matin de la Méditerranée vers les Alpes et près des Pyrénées avec du Mistral et de la Tramontane qui souffleront jusqu'à 70 km à l'heure.
Et l'après-midi, plus de soleil ?
Et oui, il s'imposera quasiment partout dans le sud, dans l'est également. De belles éclaircies reviendront entre le Val-de-Loire, le bassin parisien, les Ardennes. Il restera plus de nuages près des côtes de la Manche avec quelques pluies éparses. Et pour les températures, 16 à 19 degrés au nord, 17 à 23 au sud.
Et Élodie Callac, revenez tout à l'heure, tiens, après 19h.